L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Gloire à Dieu. Alors, je pense qu'on est fini. On va prier, on va remettre ce temps maintenant au Seigneur et on va s'attendre de décoller aujourd'hui, spirituellement. Amen. Père éternel, on te remercie pour ta présence qui est ici. Merci Seigneur Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu nous accordes ta révélation pour notre vie, pour nos vies personnelles, Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a pas un chat endormi dans cette place, mais nous sommes tous réveillés spirituellement et nous progressons avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous inviter à tourner aujourd'hui dans Ésaïe chapitre 40 et le verset 31. Premièrement, je vais juste vous dire le thème du message aujourd'hui, c'est comment prendre son envol. Comment prendre son envol? Vous savez, il y a beaucoup de croyants, si on parle au niveau des avions, ok, on peut être un jet, un gros jet, et puis on peut se promener sur la piste d'atterrissage pendant longtemps, puis juste se promener. Mais Dieu nous appelle à prendre notre envol. Ça fait trop longtemps qu'on a des croyants qui connaissent des choses sur Dieu. Ils savent comment voler. Ils savent des choses dans leur tête. Mais là, Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'on mette ces choses-là en pratique et qu'on prenne notre envol. C'est le cœur de Dieu. Savez-vous ça ce matin? C'est ça que Dieu veut pour nous. Qu'on soit non seulement équipés, on n'est pas ce gros jet puissant qui peut déplacer de l'air, mais non seulement ce qu'on peut le faire, mais on va le faire au nom de Jésus. Et c'est ça qu'on veut faire ce matin. Dans Ésaïe 40 et le verset 31. Il est écrit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Amen. Ça, c'est le verset clé pour le message d'aujourd'hui. Mais vous savez, notre cœur ici à l'Assemblée, c'est que vous receviez le plein conseil de Dieu. Et une des choses, je sais, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette assemblée, qui ont été sauvés ailleurs, qui ont reçu le Seigneur, peut-être ça fait 20, 25 ans, 30 ans. Et puis, savez-vous qu'est-ce que l'ennemi veut faire avec vous, des vieux chrétiens? Il veut que vous pensiez que les promesses de Dieu ne sont pas pour vous. Il veut que vous soyez, que vous veniez à l'église ici et que vous viviez une vie religieuse. Mais moi, qu'est-ce qui m'a béni ce matin? J'ai parlé avec une sœur qui m'a dit, vous savez, une fois qu'on a commencé à venir à cette église, on a un autre langage maintenant. On n'est plus comme les gens d'ailleurs, puis on n'est pas meilleur que les autres, mais c'est que on a compris des choses sur l'autorité du croyant, on a compris des choses, et c'est impossible, des fois même, de communiquer des choses avec d'autres frères et des sœurs parce qu'ils ne comprennent pas l'autorité du croyant. Ils ne comprennent pas l'autorité, la force et le pouvoir que Dieu leur donne. Et puis quand, même des fois, on peut aller sur Facebook et lire les commentaires des chrétiens qui n'ont pas été renouvelés avec ce message-là, et on entend même, hier, je lisais un courriel, puis c'était, ou plutôt un petit commentaire Facebook, c'était quelqu'un qui ne connaissait pas qui, cette personne-là, elle ne savait pas qui elle était en Christ. Alors, d'une certaine façon, mon cœur, c'est que vous allez être scrappé pour l'ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous ne ferez plus avoir. Mais vous avez reçu un message comme quoi vous avez de l'autorité et là vous marchez dedans. Amen. On a parlé pendant 3 semaines de l'autorité du croyant et ce matin c'est pas l'objectif. Mais qu'est-ce que mon cœur ici, c'est que vous puissiez comprendre que même si vous avez reçu un enseignement, notre cœur c'est que vous puissiez marcher dedans. Dans Actes 20, 27, ça dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Notre cœur, c'est pas vous cacher les promesses de Dieu. Dans 2 Corinthiens 2, verset 7, ça dit, « Nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Donc, on vous a pas falsifié la parole de Dieu. Peut-être pendant longtemps, vous avez entendu des choses au sujet de Dieu, comme quoi Dieu vous rend malade, comment Dieu il est en train de faire toutes sortes de choses, mais des choses qui vous détruisent. J'espère que vous le savez ici, que Dieu n'est pas contre vous. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Donc, vous savez que Dieu est pour vous. Amen. Dieu est pour vous ce matin. Il est pour vous ce matin. Alors, pour prendre notre envol, faut savoir que Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Et l'affaire, c'est qu'est-ce que je ressentais cette semaine comme je priais? C'est qu'il y a beaucoup de personnes dans cette assemblée qui sont devant deux chemins. Il y a un chemin de la tradition. Qu'est-ce que vous avez reçu peut-être pendant 25 ans, 30 ans, 40 ans? Pendant longtemps, vous avez entendu parler de la tradition des hommes. Mais là, c'est le temps de passer à d'autres choses et vivre la révolution dans votre vie chrétienne. Puis je suis sérieux, là, parce que vous savez, vous êtes devant deux chemins. Vous avez le choix, enfant de Dieu, à continuer dans votre façon de vivre dans cette église. Vivre comme votre vie chrétienne inefficace dans le passé. Vous faites la vivre ici aussi. Savez-vous ça? On va pas chez vous savoir comment vous parlez, comment vous pensez. Je suis pas capable d'être la police chez vous. C'est vrai. Comprenez-vous? Vous pouvez vivre exactement comme votre religion évangélique avant de venir ici et ça ne fera rien de positif dans votre vie. Vous ne verrez pas de changement dans vos vies. Mon cœur, là, c'est que vous réalisiez, il y a un combat spirituel aujourd'hui. Il y a un combat spirituel pour vos âmes. L'ennemi, pendant 30 ans, même si vous étiez chrétien, même si vous avez cru la parole de Dieu à un certain niveau, mais il y avait des promesses de Dieu qui n'étaient jamais pour vous, c'était toujours pour les autres. Et si pendant 30 ans, vous avez cru ça, et vous êtes encore à l'église ici ce matin, et vous ne croyez pas plus, ça ne changera rien. Vous pouvez venir à l'église de la victoire et ne pas marcher dans la victoire ce matin. C'est possible, savez-vous ça? C'est possible d'être à l'église de la victoire et d'être dans la défaite. Mais moi, aujourd'hui, je suis ici pour vous stimuler puis vous encourager à croire Dieu et dire, moi, je vais aller plus haut. Je vais aller plus haut avec Dieu. Je vais prendre mon envol. Mais savez-vous qu'est-ce que ça prend? Ça prend une décision de votre part de vous choquer sur vous-même. De vous choquer, de dire, hey, c'est fini l'incrédulité dans ma vie. C'est fini de ne pas croire la parole de Dieu. C'est fini. Moi, je vais être différent. Est-ce qu'il y en a ici qui veulent être différents ou veulent être encore religieux? Amen. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai comme une passion dans mon cœur de vous voir marcher dans la liberté de Dieu, voir marcher dans votre héritage en Christ, mais vous êtes la seule personne qui peut décider pour vous. Vous pouvez venir à l'église ici puis sortir pareil à chaque dimanche matin, puis ça serait donc dommage. Mais moi, je suis convaincu, si vous réalisez, j'ai deux choix là, j'ai deux chemins devant moi, soit la religion, la tradition, ou finalement, je vais vivre une révolution dans ma vie, puis je vais avoir des changements dans ma vie. Amen. Et là, savez-vous, vous allez devenir contagieux. Moi, des chrétiens endormis qui sont assis là pendant que je dors, qui sont écrasés de même. Oh, que Dieu souffle sur vous et vous réveille. Savez-vous qu'on est dans les derniers temps ce matin? On vit dans les temps de la fin. Si vous écoutez les nouvelles, il y a des choses qui se passent dans le monde. Les chrétiens ont besoin de se réveiller ce matin. On a besoin de se réveiller et de dire, l'heure est avancée, frères et sœurs. C'est temps qu'on se réveille et qu'on commence à croire en Dieu. Et les chrétiens qui ne croient pas en Dieu, mais que vous puissiez être le sel de la terre et gagner ces chrétiens non changés, qui puissent vivre un changement. Et je vous dis tout ça, c'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est juste une question de choix ce matin. On choisit de croire Dieu. On choisit de croire Dieu et c'est ça ma prière pour vous ce matin. Donc, comment prendre son envol? Premièrement, décidons de croire Dieu et décidons d'être réveillés. Décidons d'être réveillés. On se réveille au nom de Jésus. Ésaïe 40, verset 31. C'est dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ça, c'est pour vous, enfants de Dieu. Amen, c'est pour vous. Je vais vous lire dans Ésaïe 40, 31, Bible du Sommeur, ça dit, « Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. » Amen, ça c'est pour vous. J'ai fait une recherche sur le mot « confie ». Ceux qui se confient en l'Éternel, c'est le mot hébreu « kava ». Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire « attendre, regarder à, s'attendre à, être dans l'attente ». Ça veut dire ceux qui s'attendent à vivre des choses avec Dieu, ceux qui ont placé leur confiance et qui s'attendent que Dieu va intervenir, ces gens-là vont renouveler leur force. Amen. Et le mot également veut dire rassembler, lier ensemble. Lier à quoi? C'est lier à Dieu dans l'attente. On est convaincu de la promesse de Dieu. On est convaincu que ce que Dieu dit est vrai. On est lié à cette parole-là. On est lié à Dieu. Et si on est dans cette position-là, lié avec Dieu, ça dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Qu'est-ce qui se passe? C'est une force spirituelle que Dieu nous donne. Vous savez, Dieu ne nous appelle pas à marcher cette vie chrétienne dans nos forces personnelles. Dieu ne nous appelle pas à essayer d'être un chrétien. Dieu nous donne l'équipage qu'on a besoin pour s'envoler. Amen. Il nous donne la force de son Saint-Esprit. Le vol, quand on parle le vol, on parle d'avancement. Dieu s'attend qu'on va avancer avec lui. Si ça fait 25 ans que vous êtes à la même place, c'est le temps que ça change, frères et sœurs. C'est temps d'avancer spirituellement. Et la troisième chose qu'on voit, c'est l'endurance surnaturelle. Il court, mais remarquez ça, il court et ne se lasse point. Combien de personnes vous connaissez qui vont courir le marathon et vers la fin ne sont pas fatiguées? Mais pour l'enfant de Dieu, c'est comme ça, frères et sœurs. Il court et ne se lasse point. Et la quatrième chose qu'on voit, c'est un progrès surnaturel. Il marche et ne se fatigue point. On marche de l'avant. Et j'aime comment ça dit dans la Bible du Sommeur. Ça dit, il marche en avant et ne s'épuise point. On marche en avant. On ne marche jamais en arrière. On ne recule pas avec Dieu, mais on marche en avant de gloire en gloire. Amen. Vous savez, c'est important de s'attendre à l'Éternel. La semaine passée, on a parlé comment le Seigneur Jésus était supposé d'être le maître de notre vie, qu'il était le Seigneur. Et le problème souvent dans nos églises, quand on vit toutes sortes de défaites dans nos vies, c'est que Jésus n'est pas le Seigneur de notre vie. Et on prend nos propres décisions. On ne sait pas attendre. Mais Dieu nous dit ici, ceux qui comptent, ceux qui se confient, ceux qui attendent, qui ont placé leur foi en Jésus, ceux qui sont prêts à attendre que Dieu intervienne, leur force va être renouvelée. Il faut être prêt à attendre et de ne pas avorter les plans de Dieu. Dieu a un plan pour votre vie. Si vous êtes patient et que vous êtes prêt à demeurer dans son programme, vous allez vous rendre jusqu'au bout, enfant de Dieu. C'est important de réaliser ça. Il faut rester connecté avec lui, rester sur son chemin. Vous savez, la semaine passée, j'en ai parlé, puis je ressens encore, je dois vous ramener cette chose-là aujourd'hui. Je dois vous rappeler de cette chose. Amen. Il y a des bienfaits à attendre. Moi, je peux vous dire, quand j'étais en Australie, en 1997, je cherchais la face de Dieu, je priais, je savais pas encore si j'étais appelé au ministère, même si à l'âge de 5 ans, je faisais des réunions dans ma remise, j'avais l'appel de Dieu dans mon cœur, mais j'avais pas ma foi vraiment comme quoi j'étais appelé. Ma foi était pas là parce que j'avais toutes sortes de pensées dans ma tête. Je me disais, oui, mais si je m'en vais dans le ministère, je veux vraiment être certain que Dieu m'appelle parce que si j'essaie de mes propres forces, je sais que financièrement, bien, ça va être très difficile. Vous savez, mon grand-père était pasteur ici à Granby et j'ai de la famille qui sont dans le ministère également. Et j'ai vu comment ça pouvait être très difficile, le ministère au Québec. Alors moi, étant jeune, 97, je priais. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis allé en Australie pendant 3 mois où j'ai resté chez ma sœur. Et pendant ce temps-là, c'était mon temps, mon cava, mon temps d'attente. Et je demandais au Seigneur, « Seigneur, révèle-toi à moi. Montre-moi si tu m'appelles à être à temps plein dans le ministère. » Et quand j'étais là-bas, il y avait un pasteur. J'étais à l'église. Il y avait un pasteur qui prêchait. Et puis, il a dit, « Avant d'aller dans le ministère, il ne faut pas s'attendre que Dieu va nous montrer toute notre vie à l'avance, mais il va nous montrer un pas, on doit prendre un pas par la foi et par la suite, il va nous montrer le prochain pas. » Alors moi, j'entendais ce message-là, ça résonnait dans mon cœur et puis j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, « Seigneur, si tu m'appelles vraiment à prendre ce pas-là, je prie que tu puisses confirmer cette parole et que tu puisses le faire prochainement. » Bien, le lundi qui suivait, j'ai rencontré un vendeur de porte-à-porte qui s'est mis à me parler de Dieu. C'est un croyant. Et puis, il me dit, tu sais, avant de se lancer dans le ministère, faut pas s'attendre que Dieu va nous montrer toute notre vie à l'avance, mais il va nous montrer un pas. On prend ce pas-là par la foi et par la suite, il va nous montrer le prochain pas. Et comme il parlait, je savais que Dieu me parlait et me disait, écoute, je t'appelle au ministère. Mais même si Dieu m'a parlé à ce moment-là, je peux vous dire que moi, j'étais incrédule quand même. J'étais incrédule, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis revenu au Québec, j'étais au téléphone avec Mathilde, on était juste en fréquentation, on n'était pas mariés encore. J'ai dit, cette chose-là, tu sais, j'ai dit, peut-être c'est juste une coïncidence. Si je prends un pas par la foi et cette expérience en Australie, si c'était juste une coïncidence, bien là, toute ma vie va être ruinée. Voyez-vous comment l'ennemi est? Il aime ça qu'on marche dans le doute, dans l'incrédulité. Mais j'ai parlé avec Mathilde au téléphone et le dimanche matin, j'étais en visite dans une église à Granby. C'était pas mon église régulière, mais le pasteur invité était là et puis me connaissait parce que je chantais autrefois aux États-Unis, puis me connaissait de d'autres églises aux États. J'arrive à cette église-là, le pasteur prêche et puis là, il parle à la congrégation et puis là, il m'appelle. Il dit, « Joël, viens en avant, j'ai une parole. » Il me dit, « À 4 heures cette nuit, le Seigneur m'a dit, il m'a réveillé, puis il m'a dit, « T'es appelé au ministère, cesse de douter. » Cesse de douter que tu es appelé. Reçois, accepte-le. Arrête de regarder autour de toi, aux circonstances, mais crois Dieu. Puis c'est ça qu'il me dit à l'époque. Là, je me suis dit, bon, OK, Dieu m'appelle à être au ministère à temps plein, mais peut-être que c'est pas le temps de Dieu. Alors là, je suis allé à l'université. Et puis, finalement, quand j'étais à l'université, j'étais toujours dans des combats parce que j'étais en dehors de la volonté de Dieu. Voyez-vous, on peut vouloir bien faire, mais bien faire, ça veut pas nécessairement dire être dans la volonté de Dieu. Alors, j'étais là à l'école, j'entendais les professeurs enseigner, j'étudiais en éducation. Et puis là, pendant que le professeur parlait, moi, j'entendais la voix du Saint-Esprit en dedans de moi qui me disait, « Joël, es-tu vraiment à la bonne place? Es-tu vraiment à la place où je t'ai appelé? » Et puis, j'étais toujours tourmenté. Finalement, j'ai abandonné l'université et puis j'ai accepté l'appel de Dieu sur ma vie. J'ai fait l'Institut biblique et puis j'ai enregistré un CD. Là, je me suis lancé dans le ministère à temps plein avec Mathilde. Tout ça pour dire que, vous savez, il y a des moments d'attente où on doit attendre pour recevoir la parole de Dieu. Quand on agit avant le temps, c'est là où on peut se péter le nez. C'est là où on peut avoir des problèmes. C'est à ce moment-là qu'on peut on peut prendre notre propre chemin. Et une autre chose que j'avais à cœur de vous dire, c'est que vous savez, peut-être vous êtes un chrétien de longue date. Vous avez reçu des choses de Dieu. Vous avez peut-être cru des choses. Et là, le Seigneur, peut-être ça fait longtemps, vous êtes habitué de vous organiser dans votre vie chrétienne tout seul. Peut-être vous êtes habitué de fabriquer votre propre vie. Mais Dieu a une destinée pour chacun d'entre vous ce matin. Dieu, il a un plan spécifique. Au nom de Jésus, arrêtez d'essayer de faire votre propre vie tout seul. Si seulement je peux vraiment vous encourager, essayez de trouver son plan. Prenez ce temps-là, le caveau, le temps d'attendre et dire, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Prenez le temps. Peut-être vous dites, ouais, mais je fais pas d'argent pendant que je m'arrête puis je prie puis je cherche la face de Dieu. Oh, c'est le temps le plus profitable, frères et sœurs. Ça donne rien d'aller travailler un an, deux ans dans une chose que Dieu vous a pas appelé à faire. Comprenez? Si vous prenez le temps, vous cherchez Dieu, Seigneur, quel est mon appel? Et le Seigneur se révèle. Il dit, voici mon enfant, exactement ce que je t'appelle à faire. C'est un pas. Voici le pas que je te demande à prendre. Et là, vous prenez ce pas-là et Dieu vous guide, Dieu vous bénit là-dedans. Mais moi, mon cœur ce matin, j'ai parlé tantôt de la tradition et de la révolution. Mais aussi, c'est qu'on doit vivre la révolution au point où on est prêt à réapprendre à vivre la vie chrétienne. On doit réapprendre à vivre la vie chrétienne. Nous ne sommes pas au contrôle de notre destinée. Dans le sens que Dieu a un plan, et si nous embarquons sur ce plan-là, nous allons être bénis. Mais si on dit, voici mon plan, Seigneur, viens bénir mon plan, ça ne marche pas. Vous allez être malheureux longtemps, frères et sœurs. Vous allez essayer de faire votre vie à votre façon. Et puis là, vous allez dire, je comprends pas, je me pète tout le temps la tête, c'est mieux. Pourquoi ça va mal? C'est parce que Dieu ne vous a jamais appelé à faire telle ou telle chose. Quand la main de Dieu est sur nous, on voit la faveur de Dieu qui vient avec. J'aimerais ça vous dire, quand Dieu vous appelle à faire quelque chose et vous entrez dans sa bénédiction, vous allez voir sa main de faveur. Il va ouvrir des portes pour vous, enfants de Dieu. Il va ouvrir des portes. Vous allez avoir des confirmations tout au long du chemin. Je sais pas pourquoi c'était pas vraiment dans mes notes qu'est-ce que je vous dis aujourd'hui, mais vous savez, quand on a pris un pas par la foi et Mathilde a quitté son emploi, quand Mathilde a quitté son emploi pour se joindre à moi à temps plein dans le ministère, je peux vous dire, on avait des dettes. On avait des dettes d'études à Mathilde et puis on avait besoin de l'argent pour vivre. Savez-vous ça? Nous autres, on est de cette classe-là. On a besoin de l'argent pour vivre. Peut-être qu'il y en a ici aussi, vous êtes avec moi, là. Mais quand Dieu nous a dit, OK, c'est temps de relâcher la job sécure que Mathilde avait, avec un salaire, parce qu'elle travaillait pour la commission scolaire. Elle avait besoin de l'argent pour payer les comptes. Et moi, j'étais évangéliste, mais vous savez, comme évangéliste, des fois, on n'a pas toujours un salaire garanti. Si vous avez déjà vécu ça, ça prenait la foi, là. Mais là, quand Dieu nous a dit, puis j'ai dit à Mathilde, je ressens vraiment que le Seigneur nous appelle à ce que toi, tu quittes ton emploi pour te joindre à moi quand je vais aux États-Unis. Parce que je faisais du ministère aux États. Et puis, elle a quitté son emploi parce qu'elle avait la conviction aussi du Saint-Esprit. Et ça, la dette qu'on avait, c'était au-delà de 6 000 $. Peut-être vous dites que ce n'est pas grand-chose, mais pour nous, c'était beaucoup. Le lundi, on a reçu un chèque. Quelqu'un nous a dit, j'ai à cœur de semer 10 000 $ dans votre vie. Le Seigneur m'a dit de vous donner 10 000 $. Bien, gloire à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On a clairé la dette de Mathilde. Bien, elle n'aime pas ça que je le dise, mais on a clairé la dette qu'on avait. Et là, on avait prié pendant des mois pour avoir un ordinateur. Bien, avec l'argent qu'on a eu, en masse pour payer en plus l'ordinateur cash. Vous savez, si Dieu vous appelle, Dieu vous donne la vision, il va vous donner la provision qui vient avec. Oh, j'aimerais ça. Moi, mon souhait, là, c'est que chaque personne ici, que vous puissiez entrer dans votre destinée et que vous puissiez arrêter de vous battre. Arrêter de vous battre à entrer dedans, mais laissez Dieu vous propulser dans votre destinée. Enfant de Dieu. Il est là avec vous. Il est disponible pour vous. Vous avez le meilleur conseiller. Vous avez le meilleur conseiller. Le Saint-Esprit qui est là, il va vous guider dans le bon chemin. Amen. Gloire à Dieu. On est rendu au premier verset. OK. Au deuxième. Gloire à Dieu. Tout ça pour dire, comment prendre notre envol? Premièrement, on doit discerner entre la tradition et la révolution que Dieu nous appelle à prendre. Puis ça se peut que Dieu vous appelle à carrément tout revoir votre marche chrétienne, revoir vos croyances. C'est correct. Parce que si ça marche pas dans votre vie chrétienne, bien, c'est une bonne affaire de tout revoir. Si vous dites, ben, ça fait 20 ans que je crois ça comme ça. Mais ça fait 20 ans que ça marche pas dans ta vie chrétienne. Change donc. C'est vrai? Si après 20 ans, ça marche bien, mais gloire à Dieu, continue là-dedans. Hein? On brise pas, on répare pas quelque chose qui est réparé, qui va bien. Mais si ça marche pas, peut-être c'est temps de vivre des changements. Amen. Mais je vous dis ça pour vous dire, c'est qu'il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel pour vous. Vous voulez entrer dans l'appel de Dieu pour votre vie. Vous voulez être même heureux à l'église ici. Vous allez entendre des choses constamment qui sont contraires à ce que vous avez entendu. Ça se peut très bien. Quelle sera votre réaction à tout ça? Quelle sera votre réaction? Si vous dites, Seigneur, je me laisse enseigner par toi, en autant que c'est biblique, en autant que je vois ta parole à l'appui, Seigneur, je te laisse me changer. Et si vous faites ça, gloire à Dieu, on va vivre des percées, puis il n'y a personne qui va passer à côté. Personne ne va passer à côté. Moi, la chose que je trouve la plus triste, c'est quand je vois quelqu'un qui aime Dieu, mais qui ne fait pas confiance à Dieu. Qui fait si peu confiance à Dieu, qui décide, je vais faire ma vie à ma façon. Mais Dieu a mieux pour nous. Dieu est disponible pour nous. Il va nous guider. Amen. Je vais vous donner un exemple ce matin de l'envol spirituel. Quand on parle de quelqu'un qui progresse, qui avance, on va voir dans Luc chapitre 5. On va lire ça ensemble. Luc chapitre 5, à partir du premier verset. L'envol spirituel. Oui, Seigneur, il désire que ses enfants puissent s'envoler avec lui, dans sa faveur, s'envoler dans leur destinée, dans les promesses de Dieu. C'est le cœur de Dieu pour ses enfants. Dans Luc chapitre 5, commençant au verset 1, c'est dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Verset 5, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Verset 6, « L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et les remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. » Verset 8, « Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Verset 9, « Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. » Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Je vous ai lu ce texte-là ici parce qu'on a vu le commandement du Seigneur Jésus. Il dit, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Jésus a donné un commandement. Simon-Pierre aurait pu ne pas obéir. Parce qu'il y avait déjà la raison intellectuelle. Remarquez, verset 5, il dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Il aurait pu arrêter juste là et dire, « Écoute, on a fait ça toute la nuit, on le sait nous autres. Dieu, là, Jésus, tu ne comprends pas. Regarde, j'ai déjà fait ça toute la nuit. Je suis fatigué, ça ne me tente pas. » Et puis là, on a les raisons intellectuelles pourquoi ça ne marchera pas. Je l'ai déjà fait, j'ai travaillé toute la nuit. Puis Dieu, tu ne sembles pas être au courant de cette situation-là. Mais remarquez ici, on peut donner les raisons à Dieu et même on peut se donner des propres raisons pourquoi ne pas entrer dans l'appel de Dieu. Et des fois, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on se ment tellement qu'on commence à croire nos propres mensonges. Je ne peux pas répondre à l'appel de Dieu sur ma vie à cause de X, Y, Z. Et là, je commence à donner des raisons à Dieu pourquoi je ne peux pas faire ce qu'il me demande de faire. L'abandon de la volonté personnelle. Ici, là, sa volonté, ça ne lui tentait pas d'aller à la pêche, remarquez bien. Il y avait le choix entre le repos ou l'obéissance. L'abandon de l'orgueil. Il n'y en a pas de poisson, j'ai travaillé toute la nuit. À quelque part, pour entrer dans l'appel de Dieu et dans notre destinée, savez-vous qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a été obligé d'abandonner son orgueil. Savez-vous, l'orgueil va vous voler, frères et sœurs. L'orgueil dit, écoute, j'ai raison, Jésus, j'ai travaillé toute la nuit. Je sais, moi j'ai raison. L'orgueil va vous voler, frères et sœurs. Mais regardez la différence ici. Quand il a obéi, il n'a pas été là et juste dire, OK, j'ai l'expérience, je sais qu'il n'y a pas de poisson. Mais il a accueilli la parole de Dieu et il a décidé d'obéir. Qu'est-ce qui s'est passé? L'accueil de la provision, les poissons. Il y avait des poissons en masse pour deux barques. N'est-ce pas merveilleux? Voyez-vous, il aurait pu être attaché à sa raison, attaché à son orgueil, dire « J'ai raison, je ne le ferai pas. » Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi la voix du maître. Également, il a abandonné, on a dit, il a abandonné l'orgueil, il a reçu la provision et il a accueilli également l'audition. Ici, là, je parle, il a écouté la voix de Dieu une fois et par la suite, il était capable de recevoir le prochain message. Qu'est-ce qui est merveilleux? Moi, j'aime ça. Au verset 10, ça dit « Ne crains point, désormais, Jésus lui dit, désormais, tu seras pécheur d'hommes. » Voyez-vous, son obéissance au petit commandement d'aller à la pêche a ouvert la porte. Cette obéissance-là a ouvert la porte à sa destinée. Là, par la suite, il a pris un pas avec Dieu et par la suite, le prochain pas, c'est « Dorénavant, tu vas être mon disciple. Dorénavant, tu vas me suivre. » Il a reçu son appel, son mandat pour sa vie personnelle en obéissant, en allant à la pêche. N'est-ce pas merveilleux de voir ça? L'orgueil dit « J'ai raison », l'humilité reçoit la provision. Il y a un combat spirituel concernant vos âmes aujourd'hui. Que vous soyez un chrétien ou que vous soyez un inconverti, il y a toujours un combat. Mais pour le chrétien, le combat, c'est que vous allez être chrétien, mais vous allez marcher une vie chrétienne, terne, plate, sans promesse, sans expérience avec Dieu, mais juste comme si vous avez été baptisé dans l'eau de vinaigre. Puis les gens vont vous voir, puis ils vont trouver que vous faites pitié. Puis ils ne veulent pas être comme vous parce que vous avez l'air malheureux. Ça, c'est une mauvaise publicité pour Jésus. Parce que le Jésus de la Bible nous rend heureux. Le Jésus de la Bible qu'on découvre, quand on l'obéit, il nous révèle notre destinée. Puis on marche avec lui. Et là, on est super, full béni. Amen. Si vous dites, ben, c'est pas mon expérience. Gloire à Dieu, ça peut changer aujourd'hui. Ça peut changer. Mais moi, je peux pas vous changer. C'est vous. Vous pouvez prendre la décision et dire, Seigneur, viens me changer, viens faire la révolution en moi. Mais ça va vous coûter quelque chose. Le coût, c'est votre orgueil. C'est de dire, ben, peut-être je me suis trompé. Peut-être pendant 25 ans, j'avais des idées dans ma tête. Mais peut-être je me suis trompé. Mais vous pouvez continuer à vous tromper et savoir même que vous étiez dans l'erreur et continuer là-dedans parce que vous êtes orgueilleux. Mais Dieu veut vous libérer de l'orgueil. Moi, je peux vous dire, Dieu nous demande des fois de débourser de l'orgueil. Ça ne coûte pas cher. C'est vrai, on est en masse. On n'est pas en faillite au niveau de l'orgueil. On est en masse à débourser. L'autre fois, moi, j'ai pogné les nerfs avec ma petite Félicité. Elle était dans le portique de la porte avec son petit carrosse d'enfant. Puis là, je venais de dire, veux-tu enlever ça? Parce que je passe, puis j'étais en train de remplir l'auto avec plein d'affaires. Je passais toujours à côté d'elle, puis elle avait son petit carrosse dans les jambes. Savez-vous, je suis un être humain, puis moi aussi, ça peut me taper ses nerfs. Savez-vous ça? Savez-vous que là, avec son petit chariot dans les jambes, là, j'ai pogné les nerfs, puis j'ai dit, tasse-moi ça, cette affaire-là, puis j'ai été bête. Savez-vous, oui, j'ai déjà été bête. Ça fait de la misère à croire. Mais j'ai été bête, puis là, ma petite Félicité, elle s'est mise à pleurer. Là, c'est comme ça vient nous garder au cœur. Là, j'étais dans l'auto, je m'en venais prêcher à l'église de la victoire. Puis je venais de perdre la victoire. Là, le Saint-Esprit me dit, demande-lui pardon. J'étais dans l'auto, je suis comme, ça ne me tente pas. Si j'avais dit 3 ou 4 fois de s'enlever d'un jambe, mais t'es d'un jambe, demande-lui pardon. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi je ne veux pas le faire? Pourquoi je ne veux pas le faire? C'est juste à cause de l'orgueil. C'est juste ça. Puis c'est quoi ça de l'orgueil? Ça ne me coûte rien. Je suis juste capable de dire, ben j'en ai en masse de l'orgueil. Je vais y en donner. Ben pas elle. Mais je vais m'en débarrasser. Puis là, j'ai dit, Félicité. J'ai dit ça devant Floramé et devant ma femme. J'ai dit, papa veut te demander pardon parce que je t'ai pas parlé avec amour. T'aurais dû tasser, là. Mais, non, mais c'est vrai. Mais l'affaire est, c'est que quand même, j'ai parlé puis j'ai pas parlé avec amour. J'ai perdu les nerfs. Ça fait que là, je me suis repenti. Puis là, je me sentais bien. Mais gloire à Dieu. Notre orgueil peut nous empêcher d'entrer dans notre destinée. C'est vrai. Mais pourtant, ça, c'est juste le diable. Il veut pas. Il dit, dis pas pardon, demande pas pardon. Pourquoi pas? Mais vraiment, c'est juste de l'orgueil. C'est juste de l'orgueil. Je dis, je peux marcher dessus. Hey, je me suis trompé. On est des êtres humains. On se trompe tous. N'est-ce pas? Bon, ben, on se repent. Amen. Puis c'est la même chose spirituellement. Ça fait 30 ans que ça ne marche pas, votre vie chrétienne. Ben, c'est juste l'orgueil que ça va me coûter. Après tout, après, qu'est-ce que je vais vivre? Je vais vivre des percées, puis je vais être joyeux. Gloire à Dieu, ça vaut la peine. Peut-être vous dites, ben moi, je suis peut-être ce jet-là qui va prendre l'envol, mais on dirait ça fait longtemps que je suis attaché au sol. C'est impossible pour moi de décoller dans ma vie chrétienne. Gloire à Dieu. Pas pour ça, mais gloire à Dieu, parce qu'on va parler comment vous faites décoller. Si vous êtes une personne humble, vous êtes une personne prête à vivre des changements, je vous dis une chose. L'humilité accepte l'inconfort de la remise en question. L'humilité accepte l'inconfort de la remise en question. Vous allez accepter de vous remettre en question. Voici maintenant, on va voir ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 8. Je vais vous inviter à tourner là. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 3. Ça, c'est qu'est-ce qui vole beaucoup de croyants, beaucoup de croyants. C'est au niveau de la connaissance. Quand on pense qu'on a raison, croire avoir la réponse, quand en fait c'est un mensonge. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 3, et je vais vous lire dans Bible du Semeur. Ça dit, passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Je n'entrerai pas tous dans le contexte. Nous possédons tous la connaissance voulue, dites-vous. C'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Remarquez, ça dit cette connaissance. Ici, on parle d'une connaissance spirituelle. Cette connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Cette connaissance rend orgueilleux. Donc, vous faites très spirituel. Vous pouvez connaître la Bible d'un couvercle à l'autre et vous faites citer les versets comme ça. Même j'ai rencontré un pasteur qui me disait, « Moi, j'ai plus besoin d'étudier la Bible parce que je connais ça par cœur de même. J'en ai plus besoin, moi. De la Bible, moi, j'ai tout ça en dedans, là. C'est comme ça. » Ça, c'est de l'orgueil. Non, ça donne rien. C'est vraiment... C'est que on peut connaître la Bible. Vous savez, il y a des gens qui viennent sonner chez vous les samedis matins. Ils connaissent plein de versets tout croche, sortis de leur contexte. Ça ne donne pas grand-chose dans leur vie. C'est vrai. Cette connaissance rend orgueilleux. Donc, on ne veut pas juste connaître la Bible, mais on veut la prochaine étape. Jacques 1, 22. Jacques chapitre 1, 22, ça dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dans la Bible du Sommeur, c'est seulement ne vous contentez pas de l'écouter. Traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperez vous-même. Vous savez, moi, je crois, le grand problème au Québec, dans nos églises, c'est qu'on s'est trompé nous-mêmes, pensant que la connaissance intellectuelle au sujet de la Bible, c'était suffisant. Mais c'est pas suffisant. Faut que ça soit, cette connaissance-là doit se traduire dans nos vies, par des actes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Si vous venez à l'église puis vous remplissez de la parole de Dieu, mais ça reste là, ça ne changera rien chez vous. Ça ne changera rien. Maintenant, OK, là, je continue un petit peu à vous marcher sur les orteils. Je vais parler encore des orgueilleux, correct? Puis par la suite, on va se réjouir, parce qu'on est tous humbles. 1 Pierre 5:5. Je vous invite à tourner là. 1 Pierre 5:5. Ça dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Remarquez, dans le français courant, ça dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Là, j'ai décortiqué ça pour vous parce que je sais que ça vous tente. Le mot résiste. Je suis allé dans le grec et le mot... Là, vous allez tous le connaître par cœur après. Là. C'est le mot « antitasomei ». OK? Ce mot-là, le mot « résiste », ça dit « se ranger en bataille contre, s'opposer à quelqu'un ». Ça veut dire « Dieu résiste aux orgueilleux ». Ça veut dire « il va se ranger en bataille ». Ici, on parle d'une bataille militaire. Toutes les forces du ciel sont contre vous. Si vous êtes orgueilleux, Dieu se range en bataille contre vous. Aimez-vous ça? Non, on n'aime pas ça. Ça veut dire, si vous marchez votre vie chrétienne et vous êtes un orgueilleux, c'est certain que vous n'entrerez pas dans votre destinée parce que vous êtes orgueilleux. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il va s'opposer à vous. Il va vous empêcher d'entrer dedans. Il va vous empêcher parce que par la suite, si vous rentrez dans votre destinée en Dieu, vous allez pouvoir prendre la gloire pour vous-même. Mais si vous êtes humble, regardez qu'est-ce qui se passe. Mais il fait grâce aux humbles. Le mot grâce nous parle d'une faveur de Dieu. Si vous réalisez que Dieu est votre source et que votre promotion vous vient de Dieu, vous marchez là-dedans et vous dites, c'est gloire à Dieu. Si j'ai l'avancement dans ma vie, c'est parce que c'est Dieu qui me donne cette possibilité. Il me favorise et la gloire revient constamment à Dieu. Mais le moment que vous le prenez pour vous-même, là, il va s'opposer à vous. C'est important, super important. Dieu résiste. Il va se ranger en bataille contre l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et qu'est-ce que ça veut dire, humble? Bien, c'est le mot tapinos. Ne s'élevant pas loin du sol, humble d'esprit. Ça veut dire dans notre attitude, on est humble d'esprit. On ne se prend pas pour un autre. Mais le mot orgueilleux, je suis même allé voir ça pour vous. Je sais qu'il n'y a pas un chat d'orgueilleux ici, là. Mais c'est le mot hyperphanos. Hyperphanos. Dites-les tout ensemble. Hyperphanos. C'est cool. OK. Hyperphanos, ça veut dire se montrer au-dessus des autres, surpasser, se mettre en évidence, avoir une trop haute estime de ses propres moyens ou de ses mérites, mépriser les autres ou même les traiter avec mépris d'une façon hautaine. Bon. Sauf que ces gens-là, dans la Bible, ça dit que Dieu résiste à ces orgueilleux-là. Mais gloire à Dieu, on choisit l'humilité. Amen. Amen. L'homme humble. Luc 14, verset 11. Écoutez bien ceci. Luc 14, verset 11. Ça dit, quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Ah, Dieu veut qu'on puisse prendre notre envol. Il veut nous élever. Remarquez ça. Dieu ne va pas nous élever si c'est contre sa volonté. Dieu veut vous élever. Peut-être c'est une révélation pour vous aujourd'hui, mais Dieu ne veut pas que vous marchiez la tête entre vos deux jambes dans un sentiment de rejet, mais Dieu veut vous élever. Ça, c'est super merveilleux. Là, voici l'infiltration de la tradition ou la religion. Ça rentre. Ah, ben là, faut s'abaisser, là. Hein, faut s'abaisser et dire qu'on est un pauvre pécheur. Pauvre pécheur, sauvé par grâce, on est des moins que rien. Il y a des cantiques même qui disent « un pauvre petit ver de terre ». Je suis juste un pauvre petit ver de terre. Il y a un cantique comme ça, savez-vous ça? Un cantique disant « on est des pauvres vers de terre ». Non, on n'est pas des pauvres vers de terre. C'est pas vrai ça. Donc, c'est pas de s'abaisser dans le mensonge que Dieu demande. C'est de s'abaisser, voici comment, 1 Pierre 5-6, sous la puissante main de Dieu. Regardez bien, c'est dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Ici, ça nous parle de soumission. Marcher dans l'humilité, c'est de se soumettre à la voix de notre maître. C'est de se soumettre. Ça, c'est quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui va dire, ouais, mais je comprends pas comment faire. Je sais pas pourquoi faut que je fasse ci ou faut que je fasse ça. Jésus, on est déjà allé à la pêche, ça n'a rien donné. Ça, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Mais quelqu'un qui dit, mais à ta parole, je vais écouter. Ça, c'est quelqu'un qu'on peut dire est humble. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? C'est que tout simplement, Dieu veut vous élever. Dieu veut exalter l'homme. Ça, c'est peut-être une révélation pour vous. Il ne veut pas qu'on s'exalte ou qu'on s'élève. Il veut qu'on s'abaisse dans le sens qu'on marche dans la soumission à son autorité. On ne se prend pas pour un autre. Dieu est notre source et toute la gloire, toutes les percées qu'on peut vivre, c'est gloire à lui. Comprenez-vous ça ce matin? Donc, la gloire revient constamment à Dieu. Et on est là pour le louer, l'adorer. C'est ça notre raison d'être. C'est pour adorer le bon Dieu. Mais par la suite, si nous, on s'abaisse devant son trône, Dieu, lui, va nous exalter. Il va nous exalter. On vient de le lire ensemble. L'exaltation de l'homme nécessite quelque chose ce matin. Ça nécessite quelque chose, par contre. Le courage. Le courage. Et c'est merveilleux parce que je suis rendu déjà à ma 4e page. Alléluia. S'il ne reste pas une heure, ça me réjouit. Ça me donne le temps, là. Ça va me donner le temps, là. Je vais vraiment prendre du temps ici. Ah. Mais savez-vous, je suis content de vous en parler aujourd'hui de ça. Parce que moi, j'ai la foi qu'on est une église de gens, on est courageux. On est courageux. On n'est pas des peureux, on est des courageux. Alors, ça veut dire qu'on peut tous entrer dans ce niveau avec Dieu. On peut tous s'envoler dans ses promesses, s'envoler avec lui dans sa présence. Donc, l'exaltation de l'homme nécessite le courage. Donc, une des choses qu'on doit faire, c'est croyer, nous devons croire et avancer avec ce que l'Esprit nous a révélé. Si Dieu nous a parlé et son Saint-Esprit nous a révélé des choses, ce que Dieu s'attend de nous maintenant, c'est qu'on puisse croire et avancer avec cette révélation-là. Remarquez très bien ici, là. Je vais lire un texte qui va peut-être déranger des gens, mais c'est normal à l'Église de la Victoire. Luc chapitre 14, verset 25-26. Luc 14, verset 25-26, dans la Bible, Parole de vie. Ça dit, « Plus tard, Jésus est en route et des foules nombreuses l'accompagnèrent. Il se tourne vers elle et il dit, « Celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. » Bon, ça, ce verset-là, ça nous dit plus que. On doit aimer Dieu plus que toute autre personne. Si on veut vraiment marcher cette vie exaltée avec Dieu, on veut prendre notre envol avec Dieu, on doit aimer Dieu plus que n'importe qui. OK? C'est plus que. Dans des textes, ça dit des fois, faut haïr, mais la bonne traduction, c'est plus que. C'est ça que Dieu s'attend de nous. Ça veut dire qu'on va aimer Dieu plus que notre réputation. Certainement, plus que notre réputation. C'est super important parce qu'il y a beaucoup de croyants qui passent à côté de leur vie, des promesses de Dieu, parce qu'ils ont peur de l'opinion des gens. Ils ont peur de l'opinion et les commentaires des gens. Bien, on doit apprendre à mourir à l'opinion des gens. On doit apprendre à mettre ça de côté puis dire, sais-tu, ça se peut qu'il y ait des gens qui ne nous aimeront pas et ça se peut qu'il y ait des gens qui vont parler en mal nous concernant. C'est vrai. Moi, j'ai été sur 3 sites web comme étant un faux prophète. Pourquoi? Parce que je crois dans les dîmes, les offrandes, les aumônes, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Ils m'avaient mis là-dedans dans une liste de faux prophètes, mais mon nom était à côté, le nom de Billy Graham. Donc, j'ai dit, j'aime ça, je suis en bonne compagnie. Non, mais c'est vrai. Le moment que vous faites quelque chose pour Dieu, il y a quelqu'un qui va commenter. C'est vrai. Donc, si vous vivez pour les autres, vous allez vivre pour les autres longtemps. Ça se peut, le fait de venir dans cette église, il y a des gens qui vont dire des choses sur vous. Ça se peut. Savez-vous? Ça se peut. Je peux vous le dire. Ça se peut. Moi, il y a des choses que j'ai entendues. Hey, supposément, ce pasteur-là, il enseigne telle ou telle chose. Puis, moi, je sais que j'enseigne le contraire, mais c'est venu à mes oreilles comme j'enseignais ça. On était cet été, à quelque part, je ne dirai pas trop de détails, mais ça me fait rire au bout. Il y en a qui connaissent l'histoire parce qu'il était là. Il y avait un frère d'enseignant d'une autre assemblée, OK, qui était là. Et puis, nous autres, on était toute notre gang. On faisait une activité plein air. Je ne donne pas trop de détails. Puis là, le chrétien de l'autre église, il dit, « Ah, vous êtes des chrétiens? » On a dit, « Oui. » »« Ah, vous êtes de quelle assemblée? » Moi, je pense que c'est moi qui j'ai répondu, « De la Victoire. » Il a dit, « Ah, chez Sphinx, là? » Puis là, après, les gens avec moi, ils ont dit, « Oui, c'est lui notre pasteur. » Le gars, il a séché. Mais l'affaire est, c'est qu'il y a des gens comme ça qui nous connaissent pas, qui vont nous juger. C'est vrai? Ils disent, ben là-bas, ils enseignent telle ou telle affaire, puis ils sont même jamais venus, ils nous ont jamais écoutés, ils connaissent rien sur nous, mais pourtant, ils sont des experts contre nous. Savez-vous, ça existe des gens comme ça. Des experts contre nous, et il y a des gens qui se spécialisent, ils écrivent sur des sites web, des enseignements contre toutes sortes de ministères, puis eux autres, au lieu de passer du temps dans la parole de Dieu, ils ont été volés, ils ont été séduits par Satan, puis ils passent leur temps à écrire contre d'autres ministères. Ça, quelle perte de temps! Le diable se réjouit de ça! Mais qu'est-ce que ça change? Ça fait juste... Je vais arrêter. Mais tout ça pour dire, écoutez bien, pour entrer dans votre destinée, vous devez mourir à l'opinion des gens. Vous devez arriver à une place, si Dieu l'a dit, je vais croire Dieu. Si Dieu me dit de faire telle ou telle affaire, je vais y aller, je vais le faire. Si Dieu me dit d'être ici, je vais être ici. Puis s'il y a quelqu'un qui commente, so what? Pis ça. C'est vrai. Sinon, vous allez vivre pour les autres. Je vais vous dire, vous connaissez Joyce Meyer? Vous avez entendu parler de cette femme-là qui prêche à travers la planète, qui remplit des stades. Mais elle était dans une église, il y a plusieurs années, peut-être il y a 30 ans, peut-être plus, mais était dans une église qui ne croyait pas dans la plénitude du Saint-Esprit. En fait, c'était une église cessationniste, où ils croyaient bon, que les dons du Saint-Esprit étaient passés. Et puis, elle a été élevée dans cette église-là, mais un jour, elle a entendu parler du Saint-Esprit. Un jour, elle a reçu l'expérience du baptême dans l'Esprit et elle s'est mise à parler en d'autres langues. Écoutez bien ceci. Tous ses amis de son église, ils l'ont laissé tomber. Ils ont dit, on ne veut plus rien savoir de toi, tu es rendue une folle. Mais cette femme-là aurait pu dire, je vais t'accepter mes amis, je vais arrêter tout ça. Puis, non, elle aimait Dieu plus que ses amis. Imaginez, mais rentrez dans cette destinée. Si vous faites une recherche sur Internet, vous allez voir qu'elle a un des plus grands ministères au monde. Pourquoi? Parce qu'elle a recherché la volonté de Dieu, pas la volonté des hommes, pas les commentaires des gens. Amen. Il faut aimer Dieu plus que n'importe qui. Et Marc 10, 29, 30, c'est un autre verset qui nous dit la même chose. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Ça nous dit encore la même chose. Il faut que Dieu soit le numéro un dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de quitter nos familles, là, si nos familles nous laissent servir Dieu. Mais il y a des familles qui vont s'opposer. Et il y a des histoires terribles dans d'autres pays où quelqu'un accepte le Seigneur et puis, admettons, la personne était dans une religion et puis là, ils veulent même tuer la personne. Vous savez, il y a toutes sortes d'histoires horrifiques qu'on entend. Dans certains pays, se convertir au christianisme, la pénalité, c'est la mort. Donc, il faut être prêt vraiment à être vendu à Dieu complètement. Heureusement, nous, au Canada, on a la liberté d'accepter le Seigneur. Puis, habituellement, il n'y a pas de conséquences. On ne se fait pas arrêter puis emprisonner. Il y a un autre frère dans le Seigneur. Lui, il était pendant 30 ou 40 ans dans une église. Okay? C'était un batteur de femmes. Il battait sa femme. Donc, c'était un homme vraiment spécial. Hein? Comme vous voyez, il allait à l'église, par exemple. Il y avait des principes. On bat notre femme, mais on va à l'église. Voyez-vous, mais les gens religieux dans son église, eux autres, bon, étaient au courant des affaires, mais on ne dit pas trop grand-chose parce qu'il vient à l'église. Donc, ce vieux chrétien religieux, il bat sa femme. Personne n'a un problème avec ça. On ne le dérangera pas. Mais un jour, il a décidé de se repentir. Il a réalisé qui il était. Puis il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur l'a pardonné. Et là, en plus, devinez qu'est-ce qui s'est passé. Il a été baptisé du Saint-Esprit, puis s'il m'a parlé en langue. Bien, ils l'ont sacré en dehors de l'Église. Excusez, je ne sais pas ce mot-là, c'est pas beau, là. Ils l'ont mis à la porte de l'Église. Imaginez, 30 ans à battre sa femme, on n'a pas de problème avec ça, mais tu pries en langue, on va te mettre à la porte de l'Église. Voyez-vous qu'il y a un problème, enfant de Dieu? L'ennemi de nos âmes ne veut pas qu'on prie en langue puis avoir cette relation d'intimité avec Dieu. Et ça se peut, vous entendez des messages ici où on prêche sur le surnaturel, on croit que Dieu est encore un Dieu surnaturel. Et ça va déranger les esprits religieux. Si vous n'aimez pas plus Dieu que vos esprits religieux, vous allez passer à côté des choses. Si vous êtes trop orgueilleux pour dire, Seigneur, peut-être je me suis trompé, bien, vous allez passer à côté des affaires dans vos vies. C'est vrai. C'est vrai. Moi, là, mon cœur, c'est que vous allez dire, Seigneur, je t'aime plus que n'importe qui, plus que n'importe quoi. Je vais suivre ta parole. Puis si tout le monde autour de moi sont contre moi, ça ne dérange pas, je vais marcher avec toi. On a besoin des chrétiens avec des tripes. On a besoin des chrétiens avec des colonnes vertébrales qui n'ont pas peur de l'opinion des gens. On n'a pas peur. On marche avec Dieu, peu importe le prix. OK, donc, croyons et avançons avec ce que l'Esprit nous a révélé. Dieu nous donne une nouvelle révélation pour notre vie. On avance avec. Vous n'avancerez jamais si Dieu vous parle et vous donne une révélation puis vous dites, ça va me coûter trop cher. Je vais perdre mes amis. Je vais perdre l'opinion des gens. Vous n'avancerez pas. Oubliez ça. Vous allez être un gros jet avec plein de carburant prêt à décoller, mais à cause de vos limitations, parce que vous êtes attaché au sol par la religion, vous allez rester à vous promener. Le gros jet qui part jamais, qui va jamais nulle part. Mais vous pouvez décider autrement aujourd'hui. Mon dernier point aujourd'hui. Croyez et avancez dans l'impossible. Croyez et avancez dans l'impossible. Avez-vous déjà entendu parler d'un homme qui s'appelait Noé? Il n'y avait pas un comité d'applaudissements lorsqu'il était en train de construire le bateau. Il n'y avait pas de comité, des cheerleaders, tout ça. Non, les gens se moquaient de lui. Pour entrer dans cette destinée, il fallait être prêt à mourir à l'opinion des gens. Avez-vous entendu parler des frères Wright, the Wright Brothers, en 1903? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé l'avion. Ils ont eu le succès. Mais les gens disaient, c'est impossible, voyons donc. Ou les gens qui sont allés sur la Lune, c'est impossible, un homme ne pourra jamais aller sur la Lune. Les gens vont toujours dire, c'est impossible. Mais remarquez bien, dans Luc 1, 37, ça dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, enfant de Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si Dieu nous appelle à faire quelque chose d'impossible, bien, si on a la foi que Dieu nous parle, on va dire, oui, Seigneur, oui, je vais le faire, oui, je vais rentrer dedans, oui, je vais être obéissant, même si je ne comprends pas exactement. Vous savez, moi, là, je suis prêt à prendre d'autres pas par la foi pour cette Église. Je vais vous le dire tout seul, moi, je suis prêt à prendre d'autres pas par la foi. J'attends juste que Dieu me dise un « OK », puis il y a d'autres choses qu'on va vous annoncer. parce qu'on n'est pas une église stagnante. On n'est pas une église où on va s'asseoir dans notre lazy boy spirituel. Si vous êtes dans cette église, préparez-vous à une montagne russe. Non, mais c'est vrai, parce qu'on va faire des pas par la foi, mais on va prendre le pas quand Dieu nous le dit, au bon moment. Je veux vous avertir, on prend des pas par la foi dans cette église. On veut marcher sur l'eau. Quand Dieu nous dit de le faire, quand Dieu nous le dit, on ne le fera pas la minute avant, je ne le ferai pas. Mais si Dieu dit, ah ouais, vas-y, on va le faire. Vous allez témoin de ce que Dieu va faire. Et c'est la même chose pour vous. Mais je veux vous avertir, vous n'êtes pas dans une église normale. On n'est pas normal, on ne sera jamais au nom de Jésus. On va avancer dans l'impossible. Dans Josué 1-2, il me reste juste quelques versets et je termine ici. Josué 1-2, ça dit, « Moïse, mon serviteur, est mort. » Des fois, on peut rester accroché au passé. « Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Voyez, Dieu est obligé de dire à son serviteur Josué, « Hello, Moïse, il est mort. » Tu savais pas, là? Il est mort. C'est à ton tour maintenant. Josué 1, 6-7, ça dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. » C'est ça qu'on a besoin, la fidélité. Selon tout ce que la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Voyez-vous, c'est comme ça encore aujourd'hui. Même si on n'est pas sous la loi, Dieu, il dit, marche tout droit. Prends pas des raccourcis. Suis pas ta logique. Marche avec moi, ni à droite ni à gauche, mais marche tout droit avec moi. 1 Jean 5:4, tout ce qui est né de Dieu, ça c'est vous, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Gloire à Dieu. Ça, c'est pour nous, enfants de Dieu. On veut voir la gloire de Dieu. On veut s'envoler avec lui. On veut prendre des pas par la foi. On veut vivre toutes ces choses-là victorieuses ensemble. Mais c'est possible ensemble. Comme nous relâchons, vous savez, vous avez tous une mesure de foi ici. Vous pouvez relâcher votre foi pour votre vie personnelle. Mais moi, j'espère que vous relâchez votre foi aussi pour l'Église ici. Je vais vous dire une chose en terminant. Il y a beaucoup de gens qui pensent que leur vie chrétienne, ils peuvent, OK, moi je peux aller dans n'importe quelle église, je peux faire n'importe quoi, et puis ne pas réaliser qu'ils ont un appel, un ADN spirituel. Quand vous réalisez que Dieu vous a appelé ici, savez-vous pourquoi vous êtes là? Vous êtes là pour relâcher votre foi pour l'avancement de cette église. C'est vrai? C'est super important. Votre foi est là pour votre vie personnelle, c'est sûr. Mais aussi, Dieu veut faire une chose ici dans cette place. Il veut qu'on prenne du territoire dans le monde spirituel. Alors, votre ADN, votre appel, vous devez savoir que Dieu vous appelle ici. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous savez, là, je vais accoucher les plans de Dieu. Je vais accoucher spirituellement, je vais prier. Et ensemble, on va voir la gloire de Dieu. Ensemble, on va prendre du territoire. Ensemble, on va augmenter les médias. On va engager plus de personnel. Ensemble, on va faire des grandes choses. Mais quand on a l'esprit indépendant, qu'on peut aller à n'importe quelle église, n'importe quand, et puis ça change rien dans notre destinée, ça c'est faux. C'est faux. Votre destinée est reliée à votre appel. Vous savez, les gens ont peur d'en parler. Les gens ont peur d'en parler parce qu'ils se disent, ben, les gens ont eu tellement d'abus dans l'église, en tout cas de la province, ils veulent pas parler des choses comme ça parce qu'ils disent, les structures d'hommes font peur aux gens. C'est pas une structure d'hommes que je vous dis. Je vous parle d'un appel spirituel. Quand vous savez, Dieu m'a appelé à être ici, c'est parce qu'ensemble, on va bûcher dans l'esprit. Ensemble, on va prier pour que ça l'arrive. Oh, que le Seigneur vous enlève la poussière sur vos émotions aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Réalisez que l'ennemi va tout faire pour essayer de vous voler votre focus, votre mandat. Oui, Dieu a un plan pour votre vie personnelle, mais il y a un plan aussi à travers vous. Comme vous relâchez votre foi, imaginez, on est tous des personnes ici ensemble, on a tous une mesure de foi, mais on la relâche tous en même temps pour vivre des percées. Imaginez qu'est-ce qu'on va vivre. Imaginez qu'est-ce qu'on va vivre. Mais ça prend encore une révolution. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on peut aller au restaurant, parler du Seigneur, puis ça, c'est l'Église. Ça, c'est faux. J'en ai parlé la semaine passée. Ça donne, je vais le dire encore. C'est vrai. Dieu nous appelle à vivre ça ensemble, à accoucher les plans de Dieu ensemble. Amen. Puis c'est pour ça aussi l'ennemi va essayer de diviser. Je vous annonce rien. Il va essayer de diviser cette Église. Comment? Par la médisance, par toutes sortes de façons. Il réussit ailleurs, mais ici, il ne va pas réussir. Ici, on va marcher dans l'amour, on va toujours marcher dans l'amour, on marche dans le pardon, puis quand on ne comprend pas une chose, on ne parlera pas à droite et à gauche, on va venir directement voir la personne qui est impliquée. Amen? Parce qu'on choisit l'amour, on ne sera pas volé. Moi, je ne travaille pas en vain, enfant de Dieu. Vous aussi, vous ne travaillez pas en vain, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? On veut voir du fruit du résultat. Amen? On va tous embarquer dans le jet ensemble et on va tous arriver dans la terre promise. Qu'est-ce que vous en dites? Amen. Est-ce qu'on peut se lever ce matin et on va applaudir le Seigneur pour qu'est-ce qu'il s'apprête à faire parmi nous? Ah, ben, il y a 3 personnes qui croient. Gloire à toi, Seigneur Jésus. On te loue, Seigneur Dieu, ce matin. On te remercie, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est ton nom qu'on élève dans cette place. C'est ton nom, Seigneur Dieu, qu'on élève dans cette place. Oh, Seigneur, on veut te remercier, Seigneur Dieu, pour la provision que tu nous donnes. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous donnes cette opportunité de se repentir de l'orgueil. Seigneur Dieu, on veut te demander aujourd'hui, Seigneur, pardonne-nous. Oh, Seigneur, crée un miracle dans nos cœurs qu'on puisse se séparer de cet orgueil. Qu'on puisse se repentir et accepter de marcher avec toi, peu importe l'opinion des gens, peu importe les commentaires. Seigneur, on marche avec toi, on est vendu, Seigneur Dieu, on veut faire ta volonté. Oh, merci Seigneur Dieu parce que tu nous donnes le courage qu'on a de besoin pour entrer dedans. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, pour chaque frère et sœur dans cette place. Je te remercie, Seigneur Dieu, qui ne sont pas des auditeurs seulement. Ils sont pas juste là pour entendre un message, Seigneur. Ils sont là pour le recevoir dans leur cœur. Ça porte du fruit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec. Pour l'amour de la francophonie.